Ils publient leur nouvel album aujourd'hui même et ils font tout ou presque. Écrire, composer, assurer la prise de son, par exemple pour le live qu'ils vont jouer en fin d'émission.
On va faire une balance.
Yo, tu m'entends?
Ah. Il vogue son fort.
Yo.
Il vogue son fort.
Une échappée avec les feux Chatterton, c'est totémique. Un monde nouveau, on en rêvait tous, mais que savions-nous faire de nos mains? Une salle pleine à craquer hurlait ce refrain comme un hymne il y a deux jours. Un hymne de nos années 2020. Il figure sur l'album Palais d'Argile, qui fut un carton et un triomphe sur scène. 4 années se sont écoulées depuis. 4 années de vie, avec des enfants qui arrivent, et une retransmission nationale de leur interprétation de l'affiche rouge pour la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak et Méliné Manouchian. De ces 4 années de musique, de trouille, de joie, d'engueulade et d'amitié, est né un nouvel album. Le titre, c'est Labyrinthe. Le mot raconte notre époque, autant que la fabrication de ce disque. Les Feux Chatterton m'ont donné rendez-vous dans le studio où ils l'ont conçu. Alors, bienvenue au studio 440 à Montreuil. J'y ai retrouvé Arthur Teboul, auteur et chanteur du groupe Au Bar. Et on avait le temps, comme il le chante dans l'un de ses textes, on avait la plage dans le sablier.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
On s'installe là ?
Où tu veux.
C'est pas mal d'être au comptoir.
Comme tu le sens. Tu veux un café ?
Ouais, je veux bien.
On retrouverait les gars après. Raphaël, Antoine, Sébastien, Clément. Ils préparaient le studio pour leur carte blanche un peu avant 10h. Les Feux Chatterton jouent à 5 depuis environ 15 ans. Arthur Teboul est monté sur scène quand il en avait 20.
La première fois que je me suis exprimé un peu sur scène avec mes propres textes, c'était à la Bellevilloise, dans le 20e, un dimanche après-midi. En fait, j'étais là par hasard avec des copains. Et là, on tombe sur une compétition de slam. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et je vois des gens passer sur scène qui disent un texte a cappella avec un public un peu comme l'école des fans. Il y a 3 tables qui ont... Chacune une pancarte avec des chiffres. Et le public donnait des notes. J'avais quoi ? J'avais 20 ans. Et en fait, plus les performeurs passent, plus je me dis, mais j'ai envie d'y aller, j'étais avec 2 copains. Et je me dis, bah, franchement, là j'ai un texte, faut que je peux le faire. Et en même temps, hyper intimidé. Paf, qu'est-ce qui se passe à un moment? Ça s'arrête. Le présentateur de l'émission, c'est pas une émission, le présentateur sur scène. Oui, il y a un animateur, quoi. Dit, bah voilà, là, c'est la pause. Bah, si des gens veulent passer, c'est maintenant qu'ils viennent me le dire. Et puis, mes potes me chauffent. Ils me disent, ah, mais vas-y, tente-le, va voir le gars, dis-lui que tu veux passer et tout. Et ils y vont pour moi. Il y a même pas le temps de se préparer. Il dit, bah ouais, bah, c'est maintenant. Mais maintenant, bah viens, c'est maintenant. Donc entre les 2 tours des slameurs, un poète de rééquilibrage. C'est pas super flatteur, mais il se protégeait de mon amateurisme. J'arrive et je suis un genou même par rapport aux gens qui passent. En plus, j'avais pas le style de l'emploi.
C'est-à-dire ?
Bah, à ce moment-là, j'étais en école de commerce. Je m'étais habillé avec une chemise bien propre. Ceinture en cuir, tout ça. Donc quand ils me voient passer, au début, les mecs se disent « Mais c'est qui ce... ?» Enfin, je le sens, quoi. C'est qui ce petit jeune, là, très propre sur lui? Et puis je débite mon texte, tac, tac, avec ma gestuelle et tout. Comme ça, je donne tout, à fond. Et là, comme dans les films. Et les notes, des super notes de l'école des fans, les 3 tables, ouah, tac, 8, 9, machin. Et j'arrive, genre, à la fin du... La compète, en fait, c'est une compète. J'arrive trop au 4e.
Pour un poète de rééquilibrage, c'est
pas mal. Voilà, c'est pas mal. Mais vraiment comme dans les films, un truc, voilà, tu sors de nulle part, et puis là, il y a une bascule. Même après, je vais m'asseoir avec mes copains, il y a une fille qui vient me voir en me disant que c'était magnifique. Enfin, un truc, moi j'ai 18 ans, enfin j'ai la vingtaine, elle a l'air d'être, tu vois, je suis danseuse, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose avec... J'ai beaucoup aimé ta performance. Là, je dis, ouais, c'est... il se passe un truc, là, c'est un moment, après, tu vois, tu sors de là tout fébrile en disant... Ces moments, c'est un peu pour ce genre de moment qu'on a envie d'être artiste, où on arrive à livrer quelque chose de soi qui touche les gens. Il y a une intensité, une concentration comme ça. Les premières fois qu'on les vit, c'est dingue. À cette époque-là, je chantais pas, je savais pas que je pouvais chanter. Je joue pas d'instrument. La seule occasion pour moi de délivrer les textes que j'écrivais, c'était de les dire a cappella, plus ou moins.
Commencer à chanter a cappella, ouais. Ça façonne forcément une façon de chanter après.
La cappella, oui. En fait, ça façonne la manière d'écrire surtout, plus que la manière de dire. Parce que, en gros, quand je suis a cappella, ma manière d'écrire, elle est très rap, elle est hip-hop. Au collège, je viens de là. Parce que quand t'es pas musicien et que t'as envie de t'exprimer, t'as une instru, c'est génial, tu peux faire du rap. Alors, sans instru en plus, ton texte est obligé de reposer sur des tricks, des tours, où tu allonges certaines syllabes, où tu joues sur les assonances et les allitérations. Parce que il faut pouvoir tenir l'auditeur en haleine juste avec la voix.
Alors, est-ce que le fait d'écrire des textes sur la musique, est-ce que ça donne une autre audace aussi? Est-ce qu'on finit par dire des trucs,
évidemment,
grâce à la musique, ouais, qu'on ne dirait pas,
ouais, une simplicité,
a cappella?
Une simplicité, même pas qu'a cappella, qu'on n'écrirait pas. La chanson, et ça j'ai mis longtemps, encore aujourd'hui, je veux dire, il y a des phrases que j'écris dans certains morceaux de Feu Chatterton, jamais j'aurais osé les écrire, tout simplement. Par exemple, nous ne nous reverrons plus. C'est la forme chantée, la mélodie, permet de dire des choses plus simplement, tout bêtement. En tout cas, moi qui viens de la littérature, de l'amour, de l'écrit, ça a été, et c'est un long chemin, de libérer de certaines pudeurs, de certaines formes, parfois du regard du littérateur, du regard de celui qui aime l'écrit sur le texte. La simplicité, c'est plutôt une audace, c'est accepter d'être vulnérable. Et plus jeune, j'étais plutôt de l'école du cynisme et de l'ironie, et j'avais besoin d'un regard plus violent sur le monde et critique. Et avec le temps, j'ai découvert que c'était plus courageux et plus grand de
baisser les armes.
Ouais, de faire le choix, de prendre le parti de la joie et de la lumière, l'âge, le fait d'être devenu père, d'être entre deux âges, l'époque.
Pourquoi
aussi.
Vous avez quel âge?
37 ans. Mais entre les deux albums, là, je suis devenu papa, j'ai une petite fille qui a bientôt 3 ans. C'est jeune, 37 ans, mais c'est plus 20 ans, et c'est pas encore 50. C'est vraiment un entre deux âges. L'époque aussi. L'époque est devenue plus violente. En fait, il faut vivre des époques assez légères et protégées pour s'autoriser cette noirceur-là. Là, on n'en est plus là. Donc, le cynisme, c'est un luxe qu'on peut plus se permettre. Voilà.
Allons voir ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Premier extrait de Labyrinthe, nouvel album des Feu Chatterton.
Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve.
Une échappée avec les Feux Chatterton, c'est Totemic jusqu'à 10h. Pour leur première tentative de groupe, ils se sont appelés les Pacemakers, et après ce fut le Dièse Quintet. Deux gars donc montent un groupe en même temps qu'ils apprennent à jouer de la guitare, Clément Doumic et Sébastien Wolf. Ils rencontrent un troisième gars qui lui n'y connaît rien, mais il porte une redingote en velours. Et surtout, il écrit des textes. Il s'appelle Arthur Teboul. Tous les trois tente de monter un nouveau groupe et se retrouve en répète.
Donc voilà, au lycée, on essaye ça et ils me disent bah ok, on refait à quatre mesures, c'est refrain. Je dis ouais, t'inquiète, pas de problème, pas de souci. Et on refait le morceau et puis moi, oh bah mince, j'ai manqué le virage. Comme je suis pas musicien, et à chaque fois j'improvisais, chaque fois qu'on faisait le morceau, c'était différent. Donc à un moment, ils m'ont dit bon, écoute. On va pas pouvoir construire un morceau puisque il y a pas de repère. Ça peut être fun, mais ça peut pas être une chanson. Et une soirée, je débite un texte sur une musique qui passe à l'oreille. Ça peut être très envahissant comme démarche. Le soir, très fort dans l'oreille. Et là, Clément comprend que ah, mais
il a progressé.
Tu te places en rythme. Tu te places en rythme maintenant. C'est sympa. Il me dit, viens, passe à la maison, on va. Je lui dis, moi, j'ai plein de textes. Et lui, il dit, j'ai envie de me remettre à la musique. Et Seb, en parallèle, pareil. Et donc, on a commencé à retravailler tous les trois, et c'était le début.
Dans ce que vous avez dit, il y a les copains qui sont patients. Parce que.
Et je peux vous dire, ils sont plus patients que je ne l'ai dit. Hein. Parce qu'à l'époque, pour moi, vraiment, la musique, c'est un truc que j'ai en moi. Enfin. Et d'ailleurs, il y a que cette ardeur qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est sur le papier, j'ai
c'était pas gagné.
Ouais, vraiment. Mais en plus, à l'époque, personne n'y croit. C'est pas que ça. Pas seulement c'est pas gagné, c'est que heureusement qu'il y a les copains pour y croire, parce que à part nous, ce qu'on faisait, pas grand monde qui trouvait. Qui... Ouais, je vous dis, croyez en vous, hein, croyez. Voilà, la première chose que j'ai envie de transmettre à ma fille, c'est vraiment d'avoir confiance. Quoi.
Comment ça, vous aviez des kystes?
J'ai des kystes là, vous entendez ma voix. J'ai des kystes cordes vocales, j'ai une voix bizarre. Et à l'époque, en plus, comme je maîtrisais encore moins ma technique vocale, même quand je parlais au-dessus et tout, et je fumais 2 paquets de clopes par jour, ma voix elle était niquée. Je parlais comme ça tout le temps, plus que maintenant. Et en répète, pour chanter, je criais. Ma seule manière de chanter, c'était un peu en essayant d'imiter Armstrong ou Tom Waits. Donc à la fin d'une heure de répète, j'étais à faune. Mais pareil, il me disait yes, cool. Mais s'il n'avait pas été là, mais voilà, ça qui est fou aussi, cette confiance qu'on se donnait les uns les autres, et même d'être patient, de dire ok, tu veux que ce soit plus terreux, et quel accord? Je sais pas, mais c'est quand dans le morceau? Et à chaque fois, il était obligé de tout rejouer du début jusqu'au moment où je dis c'est là. Mais ça, c'est des répètes qui duraient des heures et des heures. Non, ça peut être plus rouge, métallique. Ça les fatiguait, mais il voulait comprendre qu'on y arrive. Et maintenant, notre langue, quand on parle musique, elle est beaucoup plus en termes d'image. Alors, heureusement, depuis, j'ai compris. Je sais dire 3e accord, tu pourrais être plus... Là, ce serait mieux que peut-être soit mineur ou machin. Et puis... Mais au tout début, en plus, ils me disaient, s'il te plaît, apprends pas. Ils avaient peur que si je me mette à apprendre et à comprendre, je perde cette spontanéité qui fait que je faisais des trucs qui étaient vraiment inattendus, musicalement sur certains accords, certaines rythmiques.
On va écouter le tube que vous avez choisi.
Ok.
Je vous donne le casque.
D'accord.
Je vais apporter un. C'est bon ?
Pour Totemic ce matin, Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton a choisi « Quand je rêve de toi » des Worlds Apart, boys band anglais de la fin du siècle dernier.
Don't you know that I need you so that I need you in my heart.
Quand je rêve de toi.
Don't you know that I need you so that I need you deep inside.
Rêve de toi.
We'll be my for eternity. Give me calling to your heart.
Parce que ça va.
Real love is what I'm ready to give and believe me.
Rhythmic dance.
Oh, I'm dreaming of you.
J'adore.
Bah c'est l'année de l'année 98, son CM2. Non, en fait je faisais cette chanson parce que j'ai mis longtemps là, à assumer et à comprendre à quel point toute l'époque des boys band avait joué un rôle important dans ma vie en fait, dans mon désir artistique. Alors j'ai choisi les Worlds Apart parce que avec mon copain Lagda, il y a beaucoup de questions de copains hein, dans la vie.
Je vois ça, ouais.
On était fans des boys band, des girls band, surtout fans des Spice Girls. Un poster de Mel C, la sportive, dans ma chambre. Puis on faisait des chorés quoi, sur ce morceau. Avec le recul, je me dis que c'était aussi une époque, on s'en rendait pas vraiment compte, mais très douce, très belle. 98, c'est aussi la Coupe du Monde, la France Black Blanc Beurre. Peut-être que c'était une illusion, j'en sais rien, mais en tout cas, on l'a vécu. On a cru à un moment à ce truc-là, cette joie. En plus, j'étais un gamin, donc. Et la même année, avec mon pote Yann Dekel, de CM2, on commence à écrire du rap parce qu'on aimait ça. Et je me souviens, on avait les montres Casio avec les petites lumières, la bleue. Quand on dormait l'un chez l'autre, la nuit, on se faisait passer des relais. Donc, pendant 2 minutes, c'est un qui éclairait l'autre avec la Casio. Quand l'un éclairait, l'autre écrivait un bout de texte. Et puis hop, à ton tour, t'écris la suite. La vie, c'est dur, c'est pas mûr, c'est comme un enfer et on doit s'y faire. Je me baladais dans la rue, j'ai vu une BMW que je n'aurais jamais. On était en CM2, on a monté notre groupe comme ça. Et à ce moment-là, une année ou deux après, on continue et tout. Et là, il y a Lil Bowo qui arrive. Lil Bowo qui est un rappeur de 12 ans. Et c'est un duo avec Snoop Dogg. Et là, on se dit, bah ouais, c'est possible. À 12 ans, on peut
faire carrière.
On peut faire carrière. On peut devenir des stars de la musique. On peut faire de la musique, c'est chambé. Et on devient Lil Bowo. À deux.
Et à partir de là, entre Worlds Apart et le rap, quand Baudelaire, Apollinaire et Tooltoutim sont apparus alors ?
Ils sont apparus au lycée. En fait, en parallèle de ça, j'aimais beaucoup la poésie. Prévert, réciter des poèmes, c'est des choses que j'aimais faire. En même temps, pour moi, c'est pas. Les ponts sont clairs en fait. Pour moi. On divise les choses, mais écrire du rap, c'est déjà écrire, c'est déjà avoir envie d'exprimer quelque chose. Peut-être les Worlds Apart, soit, c'est un peu plus loin de Baudelaire et de Rimbaud. Mais on sait pas, ça se trouve, l'expression de Baudelaire et de Rimbaud dans leur, si c'était dans nos siècles, ce serait très surprenant, on serait pas, peut-être que leur avant-gardisme leur a fait devenir youtubeurs, j'en sais rien.
Mais ça, c'est un truc de votre génération, justement. C'est un truc d'une génération qui, par rapport à la musique, n'a plus de snobisme.
Il y en a encore, on en a encore. Je pense qu'on est, encore une des dernières générations à en avoir. Et grâce aux générations en dessous de nous, on s'en libère. Et Dieu que ça fait du bien. Je pense qu'on était beaucoup plus snob qu'on l'est maintenant. Le snobisme, c'est, au fond, ça repose sur une peur. C'est une faiblesse, quoi. Quand on est snob, qu'on veut le rester, le seul moyen, c'est de discréditer ce qui est populaire. Parce que pour exister en tant que snob, il faut aimer des choses singulières. Donc, quand est-ce qu'sont arrivés Baudelaire et Rimbaud au lycée? Sans doute à un moment où j'avais besoin de me sentir singulier. Donc à l'origine, avec le snobisme, quand même, avec une forme de snobisme.
D'entrer dans le personnage du poète maudit, un peu ?
Oui, peut-être, mais pas seulement pour... Au départ, on vient à des auteurs, enfin, pour ma part en tout cas, à cause ou grâce à leur aura. Leur nom est déjà une formule magique. On voit un visage de Rimbaud, on découvre un peu leur histoire avant de découvrir le texte. Et après, peut-être qu'on arrive à un texte. Il y a une grande excitation quand on est adolescent de découvrir des paroles irrévérencieuses, qui flirtent avec l'interdit, qui parlent de sexe, de mort. L'insolence, une Charonne de Baudelaire, c'est quand même un texte dingue. Il parle du pourrissement du corps de l'animal et qui renverse les valeurs. Et cette idée de renverser les valeurs, d'en faire un objet de sublime.
Que la charogne devienne...
Érotique, presque.
Le poème « Une charogne » de Baudelaire, dans mon souvenir et dans le vôtre peut-être, c'était assez lointain. Alors je l'ai recherché, relu, et ça commence comme ça. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble, elle avait joint.
Et l'adolescence excitait beaucoup de ces provocations.
Suite de la conversation avec Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton.
Ah, de mettre les mains vraiment dans les entrailles pourrissantes de la charogne qui grouille de cette vie. Il sait qu'il est en train de nous...
Secouer.
Et c'est ce pacte qui me plaît. J'aimais bien, j'ai découvert ça chez Brassens d'une autre manière. Et après, ça devient un jeu. Et c'est une manière de penser et de voir le monde qui peut être très amusante. Et pas seulement amusante. Pourquoi l'adolescence, c'est fort, c'est un âge où on questionne l'ordre établi. On questionne les habitudes. Maintenant que je grandis, que je suis père, etc., je suis content de m'être détaché de cette attirance pour cet héroïsme morbide qui est une des valeurs du dandy. Parce que, juste sur une petite parenthèse sur le dandy, parce qu'on nous a beaucoup accolé cette image à cause du vêtement et de la moustache.
À cause du nom aussi. À cause du nom du groupe. Feu Chatterton.
C'est vrai, le problème, c'est que le mot dandy aujourd'hui est vraiment galvaudé. Il vient parler de quelque chose de superficiel, de cosmétique, qui serait le vêtement. Et en fait, on n'a jamais le temps. On passe là-dessus parce que les formats ne permettent pas de rentrer dans le détail de qu'est-ce que vraiment le dandisme. Et il y a tellement de belles choses à dire sur le dandisme en tant que mouvement, de ce qu'il est comme provocateur, révolutionnaire, qui questionne les valeurs de son époque, du moment. On n'a pas le temps d'en parler en tant que mouvement parce que c'est devenu un mot qui a été galvaudé. Il a été un peu évidé de son sens profond.
Mais alors, ça vous a pesé d'être qualifié de dandy au départ ?
Non, pas trop. Non, par contre...
Si, vous avez dit c'était dommage qu'on ait cette étiquette.
Elle m'a embêté, mais elle m'a pas fait peur. Voilà, elle m'a pas fait peur parce que je savais que ça venait du fait qu'on avait fait des études, qu'on était parisiens. Mais très vite, nous, on n'est pas comme ça. On commençait déjà à tourner partout en France, dans des petits bars partout, des gens qui ne sont pas des parisiens, élitistes. Ça venait aussi probablement de la manière que j'avais d'écrire, qui était très littéraire. Et tout. Mais bon, c'est normal de vivre avec des étiquettes quand on fait notre métier. Enfin, il y a des idées reçues qu'on véhicule soi-même, il faut vivre avec. Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres font de nous. Un peu longue syntaxiquement, mais j'aimais bien cette phrase de Sartre au lycée, ça va... On ne décide pas ce que les autres font de nous. Par contre, ce que nous, on fait de ce qu'ils font de nous, on peut essayer de se débrouiller.
Par rapport à ces poètes qui sont dans la provocation, les chansons marquantes du groupe, de l'album précédent et de celui-ci, elles ont, je suis presque tentée de dire au contraire, valeur d'hymne. Mmh. C'est-à-dire, c'est un monde nouveau. Il y a ce poème de Prévert, « Compagnon des mauvais jours ». Là, le disque s'ouvre sur « Allons voir ». Il y a un côté « Allez tous ensemble ».
Et c'est marrant parce que, en fait, si on regarde toute notre discographie, ces éclats solaires, ces élans optimistes, finalement, ils sont rares dans toute notre discographie. Et je trouve ça génial que la vie ait fait que ce soit les morceaux qui soient les plus populaires. Parce que c'est notre chemin intime d'aller de la mélancolie à la joie. Mon terreau est mélancolique. Mon pays, c'est la mélancolie. Quand je retombe, c'est la mélancolie. Mais c'est important de pas tomber du côté où on penche. Et je pense que c'est pour ça que ils sont ressentis aussi comme des hymnes. C'est que c'est des arrachements à soi, des cris, qui sont d'abord des cris que nous, on arrache à nous-mêmes.
Mais j'imagine que quand on est en studio et qu'on écrit et qu'on compose ensemble, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on fait. J'imagine que l'idée, c'est pas de se dire au départ, allez, on va écrire un hymne.
Ah non, pas du tout. Non, d'ailleurs, en fait, on peut pas faire une chanson comme un programme. C'est à la fois hyper mystique et hyper artisanal. Parce que je pourrais comparer ça à quelqu'un qui prend un bloc de glaise et qui va le sculpter, ou un bloc de pierre. Peut-être que ce matin, il s'est levé en se disant, moi, je voudrais vraiment faire un visage dans ce bloc. Il va taper et la pierre va casser à un endroit où il ne voulait pas. Et elle change de forme. Soit on s'obstine à vouloir donner la forme d'un visage à cette pierre et on va passer un sale quart d'heure, voire une sale année, parce que la musique, c'est une obsession et les chansons, parfois, elles jaillissent, mais parfois, on retourne à l'atelier, on retourne devant le bloc de pierre sur un an, deux ans, pour trouver le dernier mot, le dernier arrangement. Et en s'obstinant, il y aura beaucoup de frustration, parce que le bloc, clairement, est en train de nous dire « je ne serai pas ce visage ».
Et on accepte.
Et on accepte ce dialogue avec la matière. Ça demande d'avoir vraiment confiance dans la vie. Et donc, faut accepter d'avoir confiance et de tirer un fil. On fait jaillir une étincelle, il y a un moment où, paf, il y a un moment collectif où il y a un frisson qui nous prend parce que j'ai trouvé quelques mots, comment trouver des accords et la mélodie, il y a une adéquation, il fait « waouh ». C'est une fraction de seconde qui...
Mais ça, c'est magique, ça.
Magique, ça. Ça, c'est magique. C'est inexplicable. C'est...
Mais alors, à quel moment on se rend compte de ce qu'on a fait ?
En fait, c'est le moment où, donc au bout de bien longtemps après, où on retrouve la scène, on joue les morceaux sur scène. Là, on commence à prendre conscience vraiment de ce qu'on a fait. Il y a une chanson dans l'album qui s'appelle « Le labyrinthe ».
Le labyrinthe est non seulement le titre de ce morceau, mais aussi celui du nouvel et quatrième album de Feu Chatterton.
Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte, on tombera dessus, suivre une trace, une empreinte, nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais, tu te promènes. Seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre, on se promène. Seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde. Les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Arthur Teboul, du groupe Feu Chatterton, est dans Totemic ce matin.
Nous, on sent que c'est un morceau hyper ambiançant. On pense que ça peut être un single, comme on dit. On cherche des singles pour les lancer avant l'album. Hier, on a tourné une vidéo. On avait invité 50 figurants pour danser. C'est la première fois que autant de gens découvraient le morceau. Et au bout d'un moment de la journée, ils commencent à tout chanter le refrain ensemble et tout. Et là, je me suis dit pour la première fois, oh waouh, ah ouais, peut-être que ça va ressembler à notre espoir. Ah oui, là, ouh. Où il se passe un truc un truc qu'on a envie, auquel on a envie de croire, mais tant que c'est pas là. Par contre, quand on crée le moment, tout le processus de travail sur les chansons, on pense pas au public. C'est hyper important d'oublier, pour nous, d'oublier le public.
Bah sinon, on est dans la séduction, quoi.
Voilà. Sinon, on est prisonnier et esclave même du public. Sauf que quand on sort d'un très grand succès, comme ça a été le cas pour nous après Palais d'Argile, ça demande du temps. C'est pour ça qu'on a pris du temps.
Ça demande du temps de s'en défaire?
Ouais, bah oui. Et donc, pendant un long moment, qui est plusieurs mois, ce qu'on crée, c'était trop guidé par une fin. Nous, la musique, ça marche quand c'est une fin en soi. C'est pas un moyen d'arriver quelque part. Ça nous a demandé d'accepter qu'on n'était pas encore sur le bon chemin, c'est-à-dire d'oublier le temps de la récolte.
D'oublier le succès aussi.
Ouais, le succès. J'aime bien dire semaille et récolte parce que je trouve qu'il y a un côté vraiment dans nos vies d'artistes, ce truc des agriculteurs, t'as deux temps qui n'ont rien à voir. T'as le temps où tu vas ensemencer la terre, tu vas être courbé, tu vas être à la merci de la pluie, du temps, tu vas dire s'il vous plaît le ciel, donnez-moi les bons trucs, le soleil au bon moment. T'as mal au dos, tu sais pas où tu vas, tu sais pas trop comment ça va se passer. Et après, il y a un temps de transition dans lequel on est, mais le public nous donne déjà beaucoup confiance et on est fiers du disque qu'on a fini. Mais il y a une phase assez dure, enfin dure, par rapport à d'autres métiers, non. Mais en tout cas, nous, dans nos métiers, c'est une phase dure d'incertitude où on ne sait pas trop ce qui se passe. Où là, tu as recouvert les graines et ça va pousser. Et tu ne sais pas ce que ça va devenir. Peut-être cette année, là, c'est la récolte, elle va être mauvaise. Ça ne dépend pas que de toi.
Le 21 février 2024... Arthur Teboul et les Feux Chatterton interprètent la chanson « L'affiche rouge » de Léo Ferré pour la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak et Méliné Manouchian. Avant de devenir chanson, le texte de « L'affiche rouge » est un poème d'Aragon qui s'intitule « Strophe pour se souvenir ». Il rend hommage aux immigrés fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944. Missak Manouchian était l'un d'entre eux.
Il ne semblait vous voir Français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos mort pour la France. Et les mornes matins en étaient différents.
La chanson L'affiche rouge, elle arrive par hasard, on sait pas trop comment. Elle arrive dans notre vie. Je la découvre, en plus tardivement, un copain. Alors que je suis fan de Ferré, que j'écoute depuis longtemps, je connaissais pas L'affiche rouge. Il me fait découvrir la chanson. Deux jours après, on est en tournée avec Feu. Je la chantonne dans les couloirs de répète. Les gars, ils commencent à se dire c'est quoi ça? En loge, Seb il prend un petit synthé, il relève les accords. On commence juste à la jouer synthé voix. Et le soir même, on la joue sur scène. Sachant que nous, en tant que groupe, déjà dans notre répertoire sur scène, on joue pas de reprise. Tous nos morceaux sont très arrangés, avec de la rythmique et tout. Pour qu'un morceau finisse sur scène avec notre perfectionnisme à tous les cinq d'habitude, il faut vraiment qu'on l'ait répété 50 000 fois, que tout le monde soit sûr. Et là, on sentait qu'il fallait qu'on la joue ce soir. Donc on monte une version comme ça au Débeauté, on la joue en rappel, très nue, comme en fait la version comme elle est au Panthéon. Hein. On la joue le soir, et là on sent qu'il se passe tout de suite quelque chose. Elle résonne en nous. On est beaucoup à être des enfants d'immigrés. On ne serait pas là si des étrangers n'avaient pas sauvé la France du nazisme. Voilà, ça résonne dans nos histoires intimes, ça résonne avec l'époque, et le message est dingue. C'est quand même quelqu'un qui s'adresse à la femme qu'il aime quelques heures avant d'être fusillé en pleine guerre, et qui lui dit « je profite du dernier rayon de soleil, et je pardonne, j'ai confiance dans l'avenir, plus tard quand ce sera fini ». Profite, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Wow. Et j'aimerais que t'aies des enfants. C'est-à-dire que je crois en l'avenir. Je crois que ceux de demain vont faire notre avenir. Wow, mais quel message à notre époque. D'être digne et clair et droit dans ses principes et de se battre pour. Alors que le gars, il est pas français, hein. Mais il croit aux valeurs de fraternité. Bon, c'est trop. j'ai envie de pleurer. Enfin, on a envie de pleurer, quoi. On joue la chanson. Et le public, dès ce soir-là, vient nous voir à la fin du concert en disant qu'il se passe quelque chose. On se met à la jouer tous les soirs. Plus on la joue, plus ça devient un moment important de notre concert. Et quelqu'un de l'équipe, je sais pas, du gouvernement ou de l'événement, de l'agence événementielle qui organisait le Panthéon, est au courant de cette reprise. Donc on n'a pas été choisi, nous, Feu, parce qu'on est Feu, pour monter un morceau pour l'événement. C'est la chanson qui nous a amené là. Et quand on arrive ce soir-là sur les marches du Panthéon, alors qu'on était au lycée, à deux pas, avec Clément et Sébastien, il pleut, il y a le vent, il y a les...
Il y a une autre chanson sur ce thème dans le nouvel album, qui est l'adaptation d'un poème d'Aragon. C'est L'étranger. Et cette chanson, elle a été mise en musique une première fois par Jean Ferrat.
Ouais.
C'était il y a 30 ans, Jean Ferrat reprenait le titre originel du poème d'Aragon, J'arrive ou je suis étranger.
Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive ou je suis étranger.
Et en ce 12 septembre 2025... Feu Chatterton publie un nouvel album où Arthur Teboul reprend ce même texte d'Aragon sous le titre « L'étranger ».
Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. Un jour, tu passes la frontière. D'où viens-tu, mais où vas-tu donc? Demain, qu'importe et qu'importe hier. Le cœur change avec le charbon. Tout est sans rime ni pardon.
Comment la bande son hyper électro est arrivée?
En fait, ça s'est passé. Ce texte de d'Aragon, J'arrive où je suis étranger, et à plusieurs reprises avec le groupe, quand parfois bah, les gars jouaient une instru, j'essayais de le caler, pour lui trouver une bonne mélodie. Parfois, c'est comme ça, j'essaye des textes, les miens ou ceux que j'aime. Souvent, je vais chercher dans les poètes quand je suis à sec. On est en répète, on a envie de faire de la musique ensemble. Parce que en fait, la musique pour nous, c'est une langue d'amitié. C'est notre manière de passer un moment entre copains. Et l'émotion la plus proche que je peux ressentir pour ceux qui ne feraient pas de musique, c'est quand tu retrouves un super bon ami à toi que tu n'as pas vu depuis longtemps, et la soirée d'école, et on fait que parler, que parler, que parler. Là, on se rappelle des souvenirs, en même temps, on parle du futur, et on sent qu'en fait, waouh, nos âmes sont très proches. Et on s'est dit tant de choses qu'on avait oublié de se dire. Et ben la musique, c'est notre langue, c'est la musique pour se dire ces choses-là. Donc on se retrouve et parfois moi, ben, je suis à sec, ou bien j'ai oublié mes carnets, ou j'ai pas tous les textes. Et là je vais sur internet, je tape Aragon, je tape Ferré, je retrouve les textes que j'aime. Et je me dis là bon, au moins je suis sûr que le texte est solide. Je vais pouvoir trouver une mélodie, ça va être plus facile, on va rigoler. Alors à plusieurs reprises j'ai tenté de caler le texte J'arrive où je suis étranger d'Aragon sur de la musique. Et puis voilà, on fait, on essaye, et puis sans même se dire c'est bien ou pas bien, les chansons qui doivent rester, restent. Les choses qui sont vraiment belles pour nous cinq, elles restent. Et un jour, on était chez Raph, qui est essentiellement batteur, mais qui, depuis, en particulier cet album, est à l'origine de la composition de deux morceaux, « À cause ou grâce », qui est un morceau au piano, et « L'étranger ». En fait, quand on se retrouve que avec Raph et Antoine, qui est à la base, souvent on fait de la techno, pour résumer. Parce que comme moi je sais pas faire de musique, et eux c'est la section rythmique, bah, pour pouvoir jouer tous les trois, sans guitariste ou pianiste, il faut qu'on ait des boucles. parce que leur plaisir, c'est quand même de jouer du rythme. Donc là, ils étaient en train de, on était en train de faire de la techno, tout simplement. Et en fait, c'était un des rêves depuis plusieurs disques de réussir à croiser la chanson française à la Aznavour et la trance. Parce que j'imagine, j'imagine une sorte de temple nocturne, immense warehouse, avec le côté incantatoire du prêcheur. Il va faire passer des messages hyper mystiques. Et voilà, on l'a fait.
Aragon dans un club, quoi.
Ouais, warehouse à Berlin avec Aragon. À fond, à fond. C'est ça ?
On va retrouver les gars ?
Ouais, allons-y.
Les gars, c'est-à-dire les quatre autres membres du groupe. Antoine Wilson, bassiste, Clément Doumic, guitariste, Raphaël de Pressigny, batteur, et Sébastien Wolf, guitariste. Je les ai installés dans le bar du studio où ils s'apprêtaient à jouer en live pour Totémique, dans une poignée de minutes en fait. Et j'ai demandé, quand vous arrivez Feu Chatterton en studio, de quoi vous vous méfiez ?
Je pense qu'on est tous très stressés de ce moment. Je pense qu'on se méfie du manque d'attention que les autres peuvent avoir envers nous. Je pense que c'est ça.
Et je pense que est-ce que moi je vais trouver ma place aussi, quoi, en gros.
Voilà. Et est-ce que les autres vont accepter que bah là, en ce moment, je suis comme ça et j'ai envie d'être comme ça, quoi. Voilà.
Et est-ce que je vais moi laisser la place ?
Ça c'est Arthur qui parle.
Je dis ça pour moi, mais je le ressens chez les autres. En fait, pourquoi on se méfie ? Parfois, tu dis, est-ce que les autres vont me laisser la place ? On sent que chacun s'efforce. Et donc, c'est un effort. Et attends, peut-être que moi, je sais où je voudrais emmener le morceau, mais il faut que je laisse la place à l'autre. On sent que chacun laisse. Et moi, je dirais, se méfier de l'impatience. Parce que c'est le truc qui empêche de prendre le temps de laisser chacun exprimer son truc, même si à la fin, ce ne sera pas la direction choisie.
Vous êtes un couple à cinq, en fait.
Exactement, c'est les mêmes problématiques. Non,
mais c'est vrai, c'est les projections sur l'autre, avoir confiance, savoir qu'au bout, on avance dans un but commun.
Regarder dans la même direction.
Non, je n'allais pas dire ça, mais oui, on peut dire ça.
Ce qui renvoie aussi à votre parcours, pour moi, dans votre discographie de vos quatre disques, c'est un changement dans votre rapport à ce que c'est qu'un morceau sophistiqué. Par exemple, là, on va à la carte blanche que vous avez choisi de jouer, c'est 1000 vagues. C'est un morceau qui est assez dénudé. Vous vous réfugiez moins derrière cette sophistication.
C'est
vrai. Clément.
C'est un long chemin d'arriver à faire des choses qui ont l'air simples et qui sont simples. Nous, quand on a commencé la musique, quand même, on avait un groupe... on faisait du slam, fusion, funk, on mettait du jazz. Enfin, on essayait de mettre un peu tout ce qu'on écoutait en même temps. Il y avait une espèce de fougue adolescente pas du tout maîtrisée. Et en fait, c'est à partir de cette espèce de matière informe, en faisant des chansons dont on a l'impression qu'elles sont géniales, mais en fait, personne ne les comprend et personne ne les écoute. Et c'est en fait au fur et à mesure qu'on dégraisse cette grosse matière et en fait au fur et à mesure des albums qu'on se rend compte que c'est la simplicité qui touche le plus les gens, comme les chansons que nous, on écoute, et que c'est hyper dur à faire, en fait.
Mais... faut aussi assumer d'être moins sophistiqué.
Ouais, non, je pense que notre plus grande peur à ça, c'est la simplicité. On accepte cette vulnérabilité, on ne se protège pas derrière une certaine sophistication qui peut être une forme de pudeur, qui peut être aussi une forme de plaisir. Mais là, on sentait qu'on avait besoin d'être plus direct et qu'on en était capable.
Voilà. Bon, après, un morceau comme Mille Vagues, il a une histoire aussi assez particulière. Il est arrivé presque d'un coup, après qu'on soit allé faire notre dernier adieu à notre manager qui a disparu pendant la création de cet album. Et en fait, en une heure, on a composé la chanson, écrit le texte et fait les arrangements. Donc il n'y a vraiment aucune fioriture. On était là, très présents, sur place, tous les cinq. Donc c'est aussi quelque chose d'assez rare.
C'est une chanson de deuil ?
En fait, on a perdu notre manager pendant la création de cet album. Jean-Philippe Allard, qui était à la fois un mélomane comme on en a peu connu, nous. Que ce soit en jazz ou en musique en général. Bon, c'était pas juste un manager, quoi. C'était quelqu'un qui était très important pour nous. Et il est parti très subitement. en pleine création, en plus à une période où nous, on, humainement, dans le groupe, c'était un peu tendu, enfin, c'est un moment un peu dur de l'album. Et on s'est retrouvés à aller rendre une dernière visite dans le, comment ça s'appelle, le funérarium. Et en fait, il se trouve qu'on était dans un studio de compo à ce moment-là, puis on est rentré et juste après ça, et je sais plus, c'est bouclément, il y en a un qui a pris une guitare, ils ont commencé à jouer, Arthur est venu, puis on s'est greffé progressivement dans ce morceau, et en 2 heures, il y avait un morceau. Il y avait un morceau qui exprimait exactement les ressentis à la fois musicaux et textuel de notre état à 5, et on s'est retrouvé, alors que c'était enfin vraiment étrange, parce que je pense que 4 jours avant, on n'était pas loin de l'implosion, et on s'est retrouvé là, comme ça, à pas trop pouvoir se parler, mais parce qu'on n'arrivait pas à parler entre nous. Mais ça, c'est venu en 2 heures, et donc on a fait ce morceau. Clem l'a dit tout à l'heure, il y a rarement un morceau qui est venu aussi vite dans l'histoire du groupe, dans sa forme un peu finale. Tout ce qu'on pouvait se dire à ce moment-là, on se l'est dit dans le morceau, et il se trouve que Arthur, comme à son habitude, a réussi à faire un texte qui universalise très bien le deuil, je pense.
Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'est donné, et toi, t'es juste là pour le transmettre. Et ce jour-là, ça nous a fait du bien, en tout cas, de penser ça, je crois. Que Jean-Philippe, il nous envoyait un petit message.
Bah, merci beaucoup, les garçons.
Bien, merci.
Au boulot maintenant.
Ouais.
Voici 1000 vagues en live pour Totemic depuis le studio 440 à Montreuil. C'est la carte blanche des Feux Chatterton.
Quelques jours à peine. Difficile de croire que tu n'es plus là. Un soir de déveine, foutu hasard. Enfin, c'est comme ça. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Il va de ton corps. Mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent, tu ne connais plus la peur. Je relis à peine. Dernier message qui dit à demain. Demain éternel, ton nouveau rivage, si proche et si loin. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent. Mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent, tu ne connais plus la peur. Mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent, mille vagues nous traversent. Je ne connais pas l'après. Je fais les tiroirs de ma mémoire pour te trouver, toi. Ce dont je me rappelle maintenant qu'il fait noir. Je le garde pour moi. Je te garde pour moi. Je te garde.
C'est le titre du nouvel album des Feux Chatterton. Leur tournée commence à Rouen le 11 novembre et jusqu'à mi-décembre, toutes les dates sont quasi complètes. Mais ils repartent sur les routes de janvier à mai au moins, avec un accord Arena, Bercy quoi, le 11 février prochain. Stéphane Le Guenec, réalise Totémique. Merci, merci Steph. C'était avec Loïs Moreau ce matin. Perrine Malinche programme nos invités. Ilinka Negulesco trouve tous les sons et la documentation. Quant à JB Audibert, il prend soin de nos disques. La semaine prochaine, je vous emmène à Aubervilliers chez l'autrice Fatima Das.